Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Des phrases qu'en veux-tu, en voilà. Des sorties sur les immigrés, les musulmans, le port d'armes. Ces propos, ces gestes suscitent souvent de très vives critiques. Et pourtant, le président tchèque Miloš Zeman est candidat aujourd'hui à sa propre succession. Face à lui, 8 autres candidats, dont son principal concurrent Jiří Drahoš, ex-chef de l'Académie des sciences, ce centriste libéral est résolument, lui, pro-européen. Mais Miloš Zeman compte bien l'emporter au second tour dans 15 jours grâce aux milieux ruraux et un électorat populaire. Alexis Rosenzweig nous en fait le portrait.
Enthousiasmé par l'élection de Donald Trump et fasciné par Vladimir Poutine, Miloš Zeman ne ménage jamais ses efforts pour être politiquement incorrect, quitte à sembler parfois jouer le rôle d'un vieil oncle qui ferait honte à la famille avec ses mauvaises blagues de fin de repas. Les repas, Miloš Zeman est connu pour les aimer bien arrosés, et une des images qui restera de son premier mandat sera son vacillement à caractère éthylique lors d'une cérémonie officielle après une réception à l'ambassade russe. Fin tacticien et ancien premier ministre social-démocrate parti en retraite après un revers électoral, Zeman était revenu sur le devant de la scène politique en 2013 pour remporter la présidentielle et il avait soif de revanche. Il a donc pris un malin plaisir à écarter ou publiquement mépriser ses adversaires politiques malgré les pouvoirs limités conférés ici au chef de l'État. Menaces, insultes, petites phrases et gros mots, le président sortant fait rarement dans la dentelle, encore moins quand il s'agit de la crise migratoire qui serait selon lui une invasion organisée avec des musulmans impossibles à intégrer. Il s'est même dit prêt à renoncer aux fonds européens plutôt que d'accueillir des migrants sur le sol tchèque. Il sait qu'il marque ainsi des points dans son électorat le plus populaire, alors qu'il est aujourd'hui le principal soutien du nouveau Premier ministre milliardaire du pays. Il se veut le candidat du peuple contre l'élite intellectuelle et médiatique pragoise. L'un de ses principaux rivaux est l'ancien directeur de l'Académie des sciences, mais Miloš Zeman a refusé de participer au débat, se contentant de faire porter les attaques par ses collaborateurs. Parmi eux, on trouve le représentant d'une société pétrolière russe, un chef de cabinet qui n'a jamais réussi à obtenir l'habilitation de sécurité nécessaire pour participer aux sommets internationaux, et un porte-parole tellement caricatural que ses déclarations ont été mises en scène dans une pièce de théâtre à succès.
Et pour ce premier tour, les Tchèques votent donc aujourd'hui et demain. C'est une mesure impopulaire pour sauver des vies sur la route. Le Premier ministre français a décidé d'abaisser à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires. Décision annoncée alors que les accidents ont augmenté pour la 4e année consécutive avec près de 3500 tués. Pour autant, cette baisse imposée de la vitesse suscite une vive opposition, d'autant que dans le reste de l'Europe, les limitations sont disparates, de 70 km/h en Suède à 100 km/h en Allemagne. Certaines associations, elles, s'appuient sur le contre-exemple danois, comme a pu le constater Laurent Berthoud.
Premier jour et première étape de notre voyage au Danemark. Il nous fallait comprendre, observer. Nous connaissions le challenge, aller à l'encontre des idées reçues, mettre fin au politiquement correct, rétablir la vérité.
Baisser la vitesse de 10 km/h sur les routes secondaires, ça ne sert à rien et c'est même dangereux. Pour étayer son argument, l'association 40 millions d'automobilistes est allée tourner ce documentaire au Danemark qui roule à 80 km/h mais qui sur certains tronçons a décidé de tester le 90, démarche inverse de celle de la France. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes.
Abaisser la limitation de vitesse, c'est forcément pas une bonne idée parce qu'on oublie là-dedans qu'on parle uniquement d'une vitesse maximale autorisée, d'une réglementation, mais qu'on ne parle pas de comportement des usagers. Le vrai choix, c'est toujours de comprendre où se situe le point de balance parfaite entre d'un côté la réglementation et de l'autre côté le comportement des usagers. Le Danemark a eu l'intelligence de replacer les automobilistes dans la réglementation. Leur limitation de vitesse était à 80, mais les Danois roulaient sur ces routes à 85 en vitesse moyenne. Ils ont donc fait progresser sur ces routes la limitation à 90 pour replacer les Danois dans le cadre de la réglementation. Et les vitesses pratiquées n'ont pas changé. Par contre, le différentiel de vitesse entre les usagers, lui, a changé. Ceux qui roulaient un peu moins vite ont remonté leur vitesse. Ceux qui roulaient un peu trop vite ont cessé de doubler et roulent maintenant dans la réglementation. Moins de manœuvres dangereuses, moins de dépassements, moins d'accidents.
Comme en Angleterre par exemple, le Danemark a fait le choix étonnant pour nous en France d'adapter la réglementation au comportement de la majorité des automobilistes.
Une démarche et une démonstration que conteste fermement l'Association de la prévention routière. Sa déléguée générale Anne Lavaux a épluché le rapport du gouvernement danois.
L'expérimentation a été menée sur 16 tronçons qui représentent à peine 100 km et pendant une durée de 3 ans. Donc c'est très difficile de tirer des conclusions de cette expérimentation. Après, le rapport qui a été fait par le gouvernement danois démontre que ça n'a pas changé grand-chose et donc les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que ça n'a pas eu d'impact sur l'accidentalité.
Et pour cause, Anne Lavaux rappelle un principe fondamental de la sécurité routière.
À partir du moment où la vitesse est importante, on a des accidents qui sont plus graves et bien sûr on a une mortalité à la hausse. Plus le choc de la vitesse est important, plus l'accident est grave. Dans les pays européens qui ont adopté une vitesse limitée sur ce type de réseau routier, eh bien ces pays sont tous dans les meilleurs en termes d'accidentalité routière.
Et de citer le Danemark, mais aussi la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Irlande et la Suisse, des pays qui pour certains ont un nombre d'automobilistes aussi élevé qu'en France. Et pour Anne Lavaux, pas question non plus d'adapter la vitesse au comportement des automobilistes, mais bien l'inverse.
Ce qu'il faut comprendre avec la vitesse, c'est vraiment collectif. C'est-à-dire que la plupart des Français respectent les règles. Si on passe de 90 à 80 km/h, les gens respecteront ces règles-là. Et à partir du moment où vous avez une grande majorité de la population qui roule à 80, eh bien ça crée un standard qui va faire diminuer la vitesse, y compris des gens qui ont tendance à rouler un peu plus vite sur ce type de réseau.
La prévention routière rappelle que ces dernières années, malgré les contrôles de vitesse automatisés, la vitesse moyenne a augmenté de 4 km/h sur les autoroutes françaises et de 2 km/h sur les routes à 90.
Depuis plus de 6 mois maintenant, le feuilleton Agrokor fait la une de l'actualité en Croatie. Le géant de l'agroalimentaire est au bord de la faillite et menace d'emporter avec lui les Balkans. Dans la ligne de mire des autorités, l'ancien PDG Ivica Todorovic, accusé de multiples fraudes et arrêté à Londres en novembre dernier. Simon Rico nous dresse le portrait de cet oligarque plutôt intrigant.
Au printemps dernier encore, Ivica Todorić était considéré en Croatie comme l'ami public numéro 1, un entrepreneur brillant, courtisé par tous les politiques, quel que soit leur bord. Mais ça, c'était avant que plusieurs banques russes ne tapent sur la table pour réclamer que son groupe, Agrokor, rembourse au plus vite ses dettes abyssales. Le mythe de la plus belle success story nationale, patiemment construit depuis l'indépendance, s'est alors effondré comme un château de cartes. Très vite, ce qui avait toujours été caché éclate au grand jour. Le géant de l'agroalimentaire a financé sa très agressive politique d'acquisition à crédit et croule sous plusieurs milliards d'euros de dettes. Considéré comme l'homme le plus riche des Balkans, Ivica Todorić a toujours fui la lumière. Sa fortune, il l'a bâtie dans les troubles années 1990, celle de la guerre, au moment de l'effondrement de la Yougoslavie et de la transition chaotique vers le capitalisme. Des irrégularités ont par exemple été notées dans la privatisation de Konsum, la principale chaîne de distribution balkanique, mais les affaires visant le puissant patron ne faisaient jamais l'objet de poursuites judiciaires. On préférait vanter la réussite de ce symbole du capitalisme national plutôt que d'enquêter. C'est l'annonce de la possible chute d'Agrokor qui emploie 60 000 personnes, dont 40 000 en Croatie, et pèse 1/6 du PIB croate, qui a fait chavirer l'opinion publique et paniquer les autorités. Ivica Todorić est alors devenu l'homme à abattre. Accusé d'avoir maquillé les comptes d'Agrokor, il s'est enfui fin octobre avant de se rendre 15 jours plus tard à la police britannique. Remis en liberté contre le versement d'une caution, Ivica Todorić attend désormais de savoir s'il sera ou non extradé. Quant aux dettes d'Agrokor, c'est le contribuable croate qui les paie.
Jamais l'obsession du passé n'a été aussi grande chez les Britanniques. Leur intérêt pour l'histoire et le patrimoine du royaume est bien connu et bien exploité également. La valeur commerciale de ce passé a été comprise il y a déjà plusieurs décennies. Trois institutions rodées sont aujourd'hui en charge de la gestion de ce patrimoine et certaines ne se privent pas de se financer grâce à des spectacles ou des boutiques souvenirs. Marie Billon nous emmène d'abord au Pays de Galles constater comment un manoir y est restauré.
Nous sommes dans le sud du Pays de Galles, à Tredegar House, un manoir construit au XVIIe siècle sur des fondations normandes datant du XIe siècle. Un endroit d'ordinaire paisible entouré de 32 hectares de jardins, mais aujourd'hui, on se croirait sur un chantier. Et on n'aurait pas tout à fait tort, explique Justin Albert, directeur de la branche galloise de l'organisme caritatif National Trust, et Jessica Courtney, responsable visiteur.
Nous sommes devant l'entrée de cette majestueuse maison, mais on ne la voit pas car toute la façade est recouverte d'échafaudages. Et ce qu'on entend là, eh bien, c'est le bruit des tubes qu'on démonte. L'échafaudage est resté là pendant un an. Le temps des travaux effectués sur la toiture, on aperçoit déjà un peu le nouveau toit.
La vieille toiture fuyait, le personnel de l'équipe de conservation courait tout le temps dans tous les sens avec des baquets pleins d'eau, toujours en train de bouger les collections pour qu'elles ne soient pas abîmées, de sauver ce qui avait été endommagé. Avant que nous débutions les travaux, ils avaient transporté 520 litres d'eau dans l'année. La réparation du toit va coûter près d'1 600 000 euros et cela fait partie d'un projet sur 10 ans. Mais c'est un bon investissement car cela remet le manoir sur pied pour des années encore.
12 mois entiers avec deux pans de la façade cachés sous des échafaudages. C'est une vue assez incongrue, décevante peut-être. Justin Albert assume. D'abord, c'était son devoir de faire tout son possible pour conserver ce bâtiment historique. Ensuite, il ne faut pas avoir peur du visiteur, dit-il.
Sur ce chemin, on avait placé des seaux en métal avec des petits mots à l'intérieur, à l'attention des visiteurs. La maison s'écroule, aidez-nous. Chaque centime que vous dépensez ici ira vers les réparations du manoir. Et les gens se rendent compte ainsi en se promenant qu'entretenir un tel endroit coûte des millions. C'est très important.
Car le visiteur est un investisseur. L'achat d'un ticket d'entrée, le prix du parking, manger un scone et boire un thé sur place, repartir avec un petit quelque chose trouvé dans la boutique souvenir, tout cela finance l'entretien du patrimoine et Justin Albert défend ce modèle commercial.
Il faut gagner de l'argent et les gens viennent ici pour se faire plaisir et ils aiment dépenser. Nous louons aussi des petites chaumières pour les vacances, nous gérons des terrains de camping, nous créons de l'énergie renouvelable en captant l'eau sur le flanc des montagnes ou en installant des panneaux solaires. Et si on arrête de faire du commerce autour du patrimoine, il va disparaître.
La force du National Trust, c'est qu'il ne s'occupe pas que de châteaux, palais ou autres vieilles pierres. À ses 500 propriétés s'ajoutent plus de 1000 km de côtes, dont les fameuses falaises de roches blanches de Douvres et 248 000 hectares de terre. Tous les endroits ne sont pas payants, on peut entrer dans certains sans s'en rendre compte, mais le National Trust est la plus vaste et la plus ancienne organisation en charge de la conservation du patrimoine historique du pays. Un petit arrêt au centre de Londres, dans la City, le quartier le plus ancien de la capitale. C'est à côté des vestiges du mur qui protégeait la cité médiévale English Heritage à ses bureaux, dans un grand immeuble moderne. English Heritage semble être le plus récent des trois principaux organismes de conservation, mais c'est plus compliqué ou plus ingénieux que ça, explique Jeremy Ashby, responsable des propriétés.
Jusqu'en 2015, nous étions une organisation gouvernementale. Ensuite, nous sommes devenus un organisme caritatif. Désormais, nous alimentons et gérons nous-mêmes notre budget. Quand l'État était notre seule source de financement, nous ne savions jamais quel budget nous obtiendrions. Et les décisions étaient politiques. Maintenant, nous avons le contrôle de nos ressources. Et cela fait sens d'avoir le même statut que la plupart des autres organisations. Elles aussi sont indépendantes.
English Heritage a quand même eu un petit coup de pouce, 80 millions de livres sterling offerts par le gouvernement en guise de cadeau d'adieu. Jeremy Ashby est content de ce changement et ne craint pas l'avenir. La grandeur fait la force avec 420 propriétés à maintenir. Il y a des équipes rodées et peu mutualisées. Les connaissances, cela contribue à baisser les coûts. Alors comment s'en sort la troisième organisation, la plus petite, Historical Royal Palace? Cet organisme caritatif ne s'occupe que de 7 palais au nom de la couronne britannique, notamment la fameuse Tour de Londres, mais aussi Hampton Court. Cet immense palace de briques rouges du XVIe siècle se trouve tout près de la capitale. C'était l'une des demeures préférées du roi aux 6 mariages, Henri VIII. C'est là qu'il a épousé la seule femme qui lui survivra. C'est ici qu'est censé errer le fantôme de sa quatrième reine. Un spectre royal bedonnant aurait aussi été vu près des cuisines, mais le monarque est pourtant là, en chair et en os. Explication du directeur Paul Gray.
Ce que vous voyez là-bas est un très bon exemple de mise en scène historique. Un acteur incarne Henri VIII, il se promène avec ses reines en costume d'époque. Ici et là, vous apercevez des mannequins en bois. Celui-là est en train de boire de la bière, là-bas c'est la fontaine à vin. Nous avons vu sur un tableau ancien qu'il devait y avoir une fontaine comme ça dans cette cour. Alors nous avons décidé d'en reconstruire une. Lors de certains événements, c'est réellement du vin qui coule. C'est une façon vivante de montrer aux visiteurs ce qu'on faisait dans cette cour il y a 500 ans. C'est une manière de raconter l'histoire autrement qu'avec des écriteaux.
Donner vie à l'histoire est quelque chose que les trois organisations font, sinon tous les jours, au moins tous les week-ends. Petits films éducatifs comme celui-ci, mais aussi cours de maniement d'épée, spectacles de joutes médiévales, par exemple. Mais si ces trois organismes rivalisent d'ingéniosité, ils ne sont pas vraiment en concurrence pour les financements. Parfois, ils travaillent même ensemble, mettant leurs ressources en commun.
Il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Et puis bonne année.
Hein, mais oui,
c'est la première fois qu'on se voit pour cette année 2018. Alors aujourd'hui, hein, nous allons faire la connaissance d'un jeune guitariste anglais.
Et oui, il s'appelle Jim Geddes, un jeune guitariste virtuose basé à Sheffield, qui publie en ce début d'année son deuxième album, A Hymn for Ancient Land. Une ode à un pays ancien, celui du folk anglais, soit un recueil de 7 titres en majorité instrumentaux, où Jim Geddes revisite ses racines musicales. Il le fait d'un geste très personnel, où l'orthodoxie folk le dispute à un psychédélisme glané dans le jazz et les musiques expérimentales. Il faut dire qu'en creusant un peu la biographie de Jim Geddes, on trouve quelques disques fantômes, aujourd'hui épuisés, et notamment un album intitulé « Satori », enregistré en 2014 avec une vingtaine de musiciens munis de violons, sitar, harpe, harmonium, saxophone et autres percussions. Et il subsiste des traces de cette expérience dans la richesse instrumentale de son nouvel album. Je vous propose un des deux titres chantés de ce Hymn for Ancient Land, interprété d'une voix habitée et sans âge.
In northeast Derbyshire, I have worked my years, found me a trade of that scythe blade. Now this land has spoke cruelty to men both. Now the time has come for this land to be sown.
Phoenix Works, extrait du deuxième album de Jim Geddes, et c'est sur ces notes de harpe ou de sitar qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation toute cette semaine, Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.